Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Nous avons plus ou moins terminé notre petit voyage artistique à travers le temps avec la présentation de tous ces courants qui ont jalonné chaque époque du 19e siècle jusqu'à la nôtre. La dernière émission, j'ai ressenti le besoin de me recentrer sur une définition simple de l'art d'un point de vue général, sa fonction, ses possibilités, et ceci en faisant appel à nos grands esprits, nos intellectuels, voire spiritualistes et évidemment les artistes. Alors nous pourrons encore approfondir le sujet tant il y a à dire, mais pour l'heure, maintenant que vous avez acquis un peu plus de familiarité avec le monde artistique, je vais vous demander de me suivre pour porter votre regard plus précisément sur l'artiste plasticien, peintre, sculpteur, etc., tel qu'il est perçu et tel qu'il est, vit et évolue dans la réalité de notre société française d'aujourd'hui. Alors, en dehors des stars de l'art contemporain, moderne, voire à la mode que je vous ai présentées dans les dernières émissions, coexistent, vivent et se côtoient toutes sortes d'artistes plus ou moins emparentés, de près ou de loin, avec ces deux formes d'art en cours ce 21e siècle. L'une, dite contemporaine, moderne, davantage reconnue par l'institution, et l'autre, plus en lien avec la tradition, de par les techniques et l'expressivité. Alors qu'il fasse partie de façon plus ou moins nuancée d'une tendance ou d'une autre, une grande question est d'actualité et se pose surtout par rapport au statut de l'artiste en impliquant la pratique elle-même. Alors qu'est-ce qui permet concrètement de dire qu'un artiste est un professionnel ou qu'il est un amateur? Et comment s'effectue la classification? Et quelles en sont les conséquences dans le social peut-être, mais aussi et surtout sur la vie et l'existence de l'artiste lui-même? Alors ce sont des questions très importantes parce que l'administration française, représentée par l'organisme gestionnaire de sécurité sociale des artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, à savoir la Maison des artistes, donc l'administration, pour réglementer la pratique artistique, tente de la codifier, lui donner un cadre comme pour n'importe quelle activité, et ceci d'autant plus, à mon avis, que l'activité est susceptible de générer de l'argent. Et c'est ainsi que l'artiste est propulsé vers une professionnalisation qui rentre davantage en adéquation avec les normes administratives et légales de la société française. Alors, comment j'ai débuté réellement ma pratique artistique il y a une vingtaine d'années? J'étais en pleine fièvre créatrice, toute mon énergie concentrée sur ma création et les moyens de le faire dans un lieu approprié. Ce que j'ai obtenu grâce à mes efforts et mon travail, et non pas avec l'aide quelconque d'une institution, puisque de toute façon, vu ma forme d'art, je ne rentrais pas dans les cadres de l'art dit contemporain, c'est-à-dire celui soutenu par l'État via ses institutions. Et après, bien sûr, par la suite, j'ai exposé, démarché, fait ce qu'il fallait pour donner sens social à cette activité particulière qui m'accaparait de plus en plus. Ceci dit, même si je n'avais jamais compté sur mon art pour qu'il me fasse vivre, j'ai suivi la pente naturelle qui m'engageait à créer, exposer, diffuser, partager, informer, animer, éduquer, et aussi à vendre, bref, à travailler, en étendant de multiples manières mon champ d'activité. Et à un moment, suite à mes interventions et donc contrainte par l'administration, je suis devenue professionnelle en 2003 selon les normes administratives en vigueur. Et je me suis consacrée alors à corps perdu à faire vivre mon art et finalement, j'ai réussi tant bien que mal à en vivre de façon extrêmement modeste, avec pas mal de privations et en adoptant le système D. Le but était quand même de me débrouiller par moi-même sans taper aux portes des services sociaux. Alors au début des années 2000, la Maison des artistes était en pleine effervescence. En parallèle de la Maison des artistes administration, la Maison des artistes association pour l'aide et le conseil aux artistes prenait de l'importance et s'engageait dans des campagnes de reconnaissance du travail de l'artiste, de tous les artistes, et ce auprès des pouvoirs publics. Aussi, à cette époque, de grands débats prenaient corps en faveur de la place de l'artiste dans la société, de ses droits et de ses devoirs, de la place abusive qu'occupait l'art dit contemporain sur la scène artistique au détriment de celui plus traditionnel, revendiqué par une majorité non négligeable de peintres et de sculpteurs. Et j'ai assisté d'ailleurs à des confrontations parfois houleuses, orageuses, sur tous ces sujets, avec même la remise en cause d'une inscription obligatoire à l'administration Maison des Artistes, le système gestionnaire de la protection sociale des artistes, des arts plastiques et graphiques, les uns étant pour, les autres étant contre, avec des motifs différents à chaque fois. Alors pour les remises en cause concernant la professionnalisation, certains contestaient parce que les obligations sociales étaient assumées par ailleurs, donc le fait d'être inscrit à la MDA, c'est-à-dire Maison des Artistes, correspondait un peu à ce que l'on nomme un doublon, et donc accumulait cotisations et contraintes administratives. De plus, pour certains, l'art et le fait de s'exprimer avec le médium artistique, rentrant davantage dans le domaine de la vocation et de la nécessité intérieure, avec ce que cela comporte d'aléatoire, le fait de l'assimiler à un métier choisi soumis à des règles administratives était antinomique, ce que je peux très bien comprendre. Il s'agit en effet d'un état d'esprit propre à nombre d'artistes, bon, ce que ne veut pas dire qu'il faut mésestimer leur implication dans leur travail. Et au contraire, celle-ci peut être totale avec le souci d'optimiser la façon de s'exprimer. Et en dehors de tout paramètre mercantil ou commercial, le professionnalisme découlerait ici d'une attitude appliquée et impliquée. Alors il est vrai que la reconnaissance de ce que nous donnons, qui confirme notre part de professionnalisme, nous parvient à mon avis de deux manières. Alors c'est mon point de vue lié à mon expérience. Alors l'une vient du public qui reçoit l'œuvre, il est touché d'une manière ou d'une autre et il nous restitue ses impressions, ses émotions, ses réflexions, qu'elles soient positives ou négatives, libre à eux d'aimer ou non, cela dépend de la subjectivité de chacun. Moi, j'accorde un intérêt supplémentaire que je recueille comme un bénéfice notable. C'est lorsque je retrouve dans les propos du public l'interprétation que moi-même j'ai donnée avec la forme. Et c'est ce qui me conforte dans le fait que la communication s'est établie. Et l'autre reconnaissance vient lorsqu'une personne veut posséder votre création et l'échange se fait avec l'argent. Alors la part qui intéresse l'administration est quand même en relation avec le fait que vous êtes susceptible de vendre. Et pour le savoir, elle doit exercer un contrôle et son moyen, c'est au travers de votre addition à la MDA qui déclenche tout un processus qui est que l'artiste reçoit un numéro d'ordre et dès la première vente, il prend son numéro SIRET pour ensuite s'acquitter de cotisations sociales sur bénéfices éventuels, ce qui est censé ouvrir des droits pour obtenir une couverture sociale. Alors cela paraît simple a priori, mais ça ne l'est pas tant que cela et nous le verrons par la suite. Alors c'était ainsi à mes débuts. L'artiste amorce son avancée vers la professionnalisation ou au moins il légalise son activité et ça l'est sans doute encore maintenant. Alors j'adhérais à mon époque par souci de légalité justement et parce que cela m'était présenté aussi comme une obligation légale, synonyme de justesse et justice, pour une activité que je jugeais, moi, sérieuse et qui recevait un écho favorable à l'extérieur. Et donc ce fut sous la pression de la MDA associée à l'organisme de sécurité sociale du régime général et après avoir demandé conseil auprès des instances compétentes, ou du moins qui devaient l'être, que je demandais mon numéro d'ordre, etc. Alors au début, j'avoue que j'étais réticente à faire ces démarches, paperasserie à remplir, numéro SIRET, etc. Tout simplement parce que je pensais que les sommes perçues lors de ventes étaient ridicules, et d'ailleurs elles l'étaient, et le sont quand même restées par rapport à ce qui est attendu pour s'assurer un minimum vital et décent. C'est pourquoi je me préparais, malgré ma passion de plus en plus envahissante, à continuer d'assumer mon quotidien tant que faire se peut, avec un travail rémunérateur correct, de préférence salarié. Mais d'un autre côté, en tant que sculpteur, j'estimais logique que pour une pièce d'importance en travail, en investissement personnel et en valeur marchande, œuvre considérée comme une pièce unique, l'acheteur était en droit de recevoir une facture en bonne et due forme, accompagnée d'un certificat d'authenticité correctement rédigé, et cela n'était vraiment possible qu'avec une reconnaissance légale et sociale. Aussi, par mon adhésion à ce système spécifique réservé aux artistes, je confirmais ma place dans la société, je cautionnais mon travail, j'affirmais mon respect pour ma création, autant que pour l'acheteur qui avait consenti à débourser une somme qui pouvait se révéler assez conséquente, et j'étais en règle de surcroît avec les lois de mon pays, du moins je le croyais. Alors le temps est passé, une quinzaine d'années. Pendant ce laps de temps, j'ai pu me rendre compte dans la communauté, notamment en province, que la place octroyée à l'artiste restait aléatoire et que l'artiste, soi-disant professionnel, ne bénéficiait pas de sa reconnaissance spécifique. Alors peut-être que l'activité semblait trop ludique pour être prise au sérieux. De plus, la fonction sociale que moi-même je remplissais, notamment dans ma région, même si elle a été conséquente, j'étais au fond la seule à croire en l'utilité de mes actions. Je m'impliquais avec ma vocation d'artiste et en parallèle, je m'appliquais à remplir mes devoirs administratifs. Mais tout cela avait des répercussions sur les finances puisque dans toutes mes démarches, je devais assumer pleinement frais, droits d'exposition. Et si je ne trouvais pas le moyen de vendre ou d'étendre mon champ d'action avec des activités annexes, cela devenait problématique. Et ce fut le cas, entre autres, avec les blocages générés par la MDA, et nous verrons cela plus loin. Alors quoi qu'il en soit, les questions concernant le statut restent d'actualité. J'ai pu m'en rendre compte, avant de tout laisser tomber il y a 3 ans, que l'administration manquait de clarté, et notamment à ce sujet. Preuve en est que les réponses que je recueillais concernant mon statut d'artiste et les manières d'exercer et d'aménager mes activités artistiques variaient d'une administration à l'autre quand elles n'étaient pas contradictoires, ce qui me valut mon petit parcours du combattant avec quelques prises de tête et le regret de n'être pas né avec un profil affirmé de juriste ou de comptable pour me faciliter la vie, ou au moins, quitte à mobiliser du temps et de l'énergie, que ce soit dans mon champ d'activité, non pas à côté. Alors, suite à cette expérience plutôt déboussolante, je me suis demandé où régnait véritablement ce fameux flou dit artistique dont on nous affuble complaisamment pour bien nous rappeler qu'au fond, les artistes ne sont que de doux rêveurs, peu sérieux, planant sur leurs nuages et donc déconnectés des réalités. Ce qui peut être vrai pour certains, mais pas pour ceux qui doivent vivre, gagner leur vie et donc s'assumer dans la société comme tout à chacun. D'ailleurs, c'est peut-être aussi à cause de cette image un peu frelatée et stéréotypée que chaque interlocuteur, professionnel de la légalité et représentant de l'administration, se permettait de souffler le chaud et le froid avec une certaine désinvolture, au travers de discours parfois contradictoires quand il n'avouait pas tout simplement qu'il ne savait pas. Et ceux qui me répondaient avec assurance, et je ne doute pas de leurs paroles, me proposaient un panel de statuts pour intégrer des activités artistiques annexes, l'ensemble constitué de tout un chapelet d'obligations administratives à remplir, avec cotisation, si bien que je me suis dit que si je rentre là-dedans, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, surtout si je loupe une étape ou oublie un papier, vu la susceptibilité de l'administration française. Alors pour en revenir au flou artistique qui m'a cassé les pieds à un moment, parce que j'en entendais de belles à ce sujet, ce qui change un peu, puisque d'habitude c'était en tant que femme que je recevais mon comptant, on va dire ça. Et par rapport au flou que je constatais plutôt dans l'administration et au travers de paroles et d'attitudes de tiers, mais que je ne remarquais pas dans ma vie active d'artiste, il est vrai que je rêvais d'en choper plus d'un pour qu'ils viennent planer dans mon atelier ou sur les chantiers d'exposition afin qu'ils se scratchent en beauté, bec enfin clos, pas le temps de bêtifier au moment d'organiser, de planifier, d'emballer, de déballer des sculptures, c'est-à-dire les trois dimensions, en courant à droite, en courant à gauche, en montant les escaliers, en les redescendant. Et ce n'est pas rien quand il faut porter, traîner, pousser, déplacer œuvres, socles et supports divers, car les sculpteurs se coltinent en général un gros travail de manutention. Ce qui veut dire qu'il faut avoir la tête vissée pour concevoir et planifier son travail et surtout posséder la solidité et l'endurance d'un âne batté pour aller jusqu'au bout de ce qui doit l'être. Alors c'est vrai que la sculpture de ce point de vue n'est pas un cadeau, hein, c'est le plus ingrat des arts et pourtant moi je n'ai pas trop à me plaindre par rapport à ceux qui travaillent la pierre. Malgré tout, je ne comptais plus plaies bleues et bosses que je découvrirais après coup, prises comme je l'étais dans le feu de l'action. Enfin, poignets bousillés et force érodée m'ont calmé jusqu'à m'arrêter et peut-être était-il temps. Enfin, tout ceci ne résout pas nos questionnements, mais peut donner quand même un petit avis de ce qu'est un travail artistique mené comme un vrai travail, avec un investissement total de sa personne et qui peut être aussi pénible physiquement. Or, je connais bien des artistes qui s'appliquent consciencieusement à faire ce qu'ils font et du mieux possible, mais à chacun de se débrouiller avec son médium, de le faire à sa manière, avec ses moyens, car toutes les variantes existent en art comme dans les autres secteurs. Alors revenons quand même sur la professionnalisation de l'artiste. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste est déclaré professionnel ou qu'un autre reste un amateur? Alors la question se pose par rapport aux critères qui définissent le professionnalisme et la réponse semblerait seulement conditionnée par des règles administratives elles-mêmes dépendantes de critères financiers. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir entendu quelqu'un aborder le professionnalisme de l'artiste en dehors de ses règlements administratifs assujettis à la commercialisation d'œuvres d'art. Mais que veut dire professionnel d'un point de vue général? Le dictionnaire renvoie le professionnel au métier que l'on exerce. Et en général, on exerce un métier pour gagner sa vie. Et en dehors de cela, le professionnalisme ne serait-il pas en rapport, hein, de manière implicite ou suggérée, avec la qualité de la production dépendant d'un savoir ou d'un talent? Bon, il est vrai que définir la qualité d'un travail implique un jugement. Bon, c'est particulier en art car la subjectivité joue un rôle et dans la cacophonie artistique environnante, eh bien la tâche est ardue. Et les jugements s'imposent surtout dans le social par les détenteurs du pouvoir, notamment économique, pour des formes d'art privilégiées au détriment des autres. Et le second critère est en rapport avec l'engagement de l'artiste et l'engagement implique du travail, de l'application, de la constance, du temps, comme toute activité sérieuse et qui résulte d'une attitude responsable. Alors, il est difficile de quantifier et qualifier une activité artistique qui se veut par excellence synonyme de liberté, dans le sens où elle peut très bien ne pas se dérouler de manière linéaire. En effet, vous pouvez vous trouver dans un creux de vague créatif avec la nécessité de prendre du recul, peut-être de vous arrêter parce que vous êtes vidé comme une source qui se tarit et à qui il faut un certain temps pour qu'elle s'alimente de nouveau. Et c'est un peu comme le flux et le reflux de la vague, une respiration nécessaire où pendant un laps de temps, vous allez chercher ailleurs, sous d'autres cieux, parfois l'inspiration. Alors la créativité, c'est être capricieuse, exigeante, impose une loi que des cadres trop rigides ne peuvent contenir et ça ne colle pas trop avec l'administratif qui demande la régularité d'une horloge. Par contre, l'activité artistique exige un engagement et un investissement qui peut être total, quasi despotique parfois, et l'on retrouve alors tous les ingrédients liés à une attitude professionnelle, ce qui veut dire que des mots comme sérieux, application, travail, constance, présence, temps passé, etc., ont un sens, même s'ils débouchent sur ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit. ou alors le professionnalisme est-il uniquement en rapport avec la capacité à gagner de l'argent, ce qui justifierait en effet que l'on s'acquitte des obligations légales avec SIRET, assujettissement sécurité sociale, etc. Alors par opposition ou à contrario, qu'est-ce qui fait qu'un artiste est amateur ? Est-ce à cause d'un art non abouti ? Quels paramètres rentrent en ligne de compte pour en juger ? Dans les émissions précédentes, j'avais abordé plus ou moins la pertinence de se mettre en rapport avec les œuvres, l'art, les artistes, afin d'affiner ses relations et ses connaissances avec ce monde particulier. Ou bien il est amateur parce que l'activité artistique, abordée de manière épisodique, est considérée comme un passe-temps. Et le terme « peintre du dimanche » est éloquent dans ce sens, puisqu'il évoque d'une manière un peu péjorative le cas d'une personne qui s'adonne avec désinvolture et sans grande disposition artistique à une activité de loisir juste bonne à lui procurer un plaisir momentané. Et il est amateur, eh bien parce que son activité n'est pas rémunératrice, il ne gagne pas sa vie avec son art. Et pour aller la maison des artistes, déjà à l'époque, l'amateur ne vend pas ses productions, puisque à la première pièce vendue, il doit se déclarer et rentrer dans le processus de professionnalisation et rendre des comptes. Et c'est le discours que j'ai reçu, lourd de conséquences, car peu importe qui vous êtes, ce que vous faites et quelle est votre situation économique et sociale. Alors une fois déclaré, l'artiste se positionne avec son numéro SIRET. Après avoir déterminé si son activité artistique est l'activité principale ou secondaire, dépendant du montant de ses divers gains, ce qui l'oblige à savoir d'avance si les gains artistiques seront inférieurs ou supérieurs aux autres. Alors toutes ces prises de position entraînent des conséquences. De toute façon, vous avez de quoi occuper l'administration. Et puis pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Alors, qui est professionnel, qui est amateur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Question difficile, toujours d'actualité, d'après les échos que je reçois. Bon, je vous ai donné des éléments de réponse, à vous d'en trouver d'autres si vous voulez, ou vous sentez concerné. L'administration, elle, a tranché en imposant ses règles, en lien avec vos gains éventuels, et le reste n'est pas de son ressort. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement une fois que vous êtes rentré à la maison des artistes ? Bon, vous ne vendez pas, vous avez juste à remplir des papiers chaque année. Vous vendez, alors vous avez deux possibilités. L'une, si vous vendez suffisamment pour obtenir par an un bénéfice sur chiffre d'affaires suffisant, dont le montant est déterminé par la MDA, c'est-à-dire autour de 8000 euros, bon c'est plus maintenant. En contrepartie, vous avez droit à une sécurité sociale et vous êtes affilié. L'autre, vous vendez, mais vous n'atteignez pas le montant exigé et donc votre bénéfice est insuffisant. Et dans ce cas, vous ne bénéficiez pas de la sécurité sociale des artistes, mais vous êtes assujetti et vous devez régler vos cotisations, c'est-à-dire les contributions sociales, CSG, RDS, etc., plus ou moins autour de 16% de votre bénéfice. Bon, à tous ces calculs s'ajoutent des majorations, etc. Et voilà en gros comment fonctionne la MDA. Ce qui veut dire, pour cette seconde possibilité, que vous payez vos cotisations, contributions sociales, sans contrepartie, puisque vous devez trouver ailleurs de quoi vous assurer, et ce fut mon cas. Alors à mon époque, j'exerçais mon activité artistique à plein temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 12 heures par jour, car j'effectuais moi-même, par économie aussi, toutes les étapes qui vont de la création à la diffusion, en passant par les recherches, la publicité, la constitution des dossiers, l'emballage des œuvres, leur transport, le déballage, la mise en place, etc. Je n'avais pas d'autres activités rémunératrices, ni d'autres soutiens que moi-même. Et lorsque j'ai voulu limiter la diffusion trop onéreuse, pour développer d'autres activités artistiques annexes, là, je me suis confrontée aux limitations et interdits décrétés par la MDA pour les activités annexes. Et si j'avais voulu les développer, quand même, il aurait fallu rajouter encore d'autres contraintes administratives avec un autre statut à prendre pour d'autres cotisations à payer. Et pourtant, l'artiste, pour vivre, voire survivre, est amené à développer des activités annexes, genre cours à l'atelier, intervention artistique, etc. Car rares sont ceux qui vendent suffisamment pour se contenter de déclarer tranquillement leur vente à la MDA. Le fait est qu'avec des revenus trop faibles pour bénéficier de la sécurité sociale des artistes, la MDA m'a conseillé de demander la CMU, ce que j'ai fait. Sauf que à cette époque, il y a entre 5 et 8 ans, peut-être que ça a changé depuis, je ne sais pas, mais la CMU, c'est-à-dire la couverture maladie universelle, s'obtenait sous condition de RMI, c'est-à-dire le revenu minimum d'insertion qui est devenu le RSA maintenant, revenu de solidarité active. Et le RMI était incompatible avec le statut d'artiste, du moins selon les critères qui m'étaient le plus favorables pour survivre en exerçant mon activité de sculpteur. Donc même si je ne voulais pas de RMI, celui-ci m'était refusé, donc pas de couverture sociale en cas de problème ni de santé, ni de RMI pour éviter le pire. Par contre, les cotisations, elles, étaient exigées et donc à régler sous peine de sanctions. Et tous ces refus sont écrits noir sur blanc sur les courriers envoyés par les diverses administrations de l'époque. Alors qu'on le prenne par un bout ou par l'autre, hein, dans une situation de précarité renforcée par les systèmes en place, la seule issue possible est de tout arrêter pour survivre ou de réformer le système si c'est possible. Comme quoi, dans notre beau pays, il est possible de rencontrer des citoyens qui n'ont que des devoirs sans bénéficier de droits. Ça existe aussi et puis ça change un peu. Alors d'autres artistes que j'ai rencontrés ont eu des problèmes comparables, plus ou moins graves. Bon, moi j'ai atteint un summum. Une fois que vous avez tout viré, même votre raison d'être au monde, eh bien reste encore le RSA comme bouée. Alors nous comprenons tous que l'administration fonctionne à sa manière avec la froideur mécanique qui la caractérise parce qu'elle prélève sa part sur notre travail pour nourrir son personnel et entretenir son système. La démocratie s'exerce merveilleusement bien à ce niveau dans le sens où elle popularise au maximum et tout le monde participe au niveau du porte-monnaie car celui-ci est invité à s'ouvrir et à partager. Par contre, elle est beaucoup moins efficiente au niveau humain car l'artiste n'a aucun mot à dire s'il est incompétent à gagner de l'argent ou parce que son activité ou son style de vie ne rentre pas dans les cadres, eh bien, il est éjecté et éliminé. Alors nous parlons beaucoup de racisme, de sexisme, de discrimination, qui est de minorer l'autre et de l'exclure, le rejeter parce qu'il n'est pas conforme. Eh bien, le monde de l'art n'échappe pas à la règle. Le cas extrême, c'est avant d'exclure, de pouvoir tirer bénéfice en monnaie, comme quoi tout ne sera pas perdu. Alors une question que je me pose, j'aimerais quand même bien savoir si les grands artistes contemporains bien en vue, socialement et fortement rétribués, sont adhérents à la maison des artistes et surtout s'ils cotisent. J'imagine le régal de l'administration qui bénéficie là d'une véritable manne providentielle pour la nourrir. À moins que leur statut de privilégié les exempte, eux aussi, comme d'autres à la une de l'actualité, de remplir les devoirs des citoyens lambda. La question est ouverte. Enfin, nous arrivons à la fin de l'émission. La prochaine fois, nous continuerons sur ce même sujet du statut, en abordant le rôle, la fonction de l'artiste, etc. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. C'était Christine Darboux, La Voix des Arts sur Radio Libre en Périgord. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.